Laudetur Jesus Christus.
Viens et vois, communiquer avec les personnes où elles sont et comme elles sont. Le pape François vient de dévoiler son message pour la prochaine journée mondiale des communications sociales. Rendez-vous qui révèle chaque année la vision du pape sur l'information et la communication à l'aune de la foi chrétienne. Compte rendu à suivre. À la une de l'actualité internationale, la circulation européenne du Covid-19 inquiète les autorités d'une majorité de pays. Ce n'est pas le cas en Espagne où les cas augmentent et les régions demandent des mesures plus strictes. Mais le gouvernement central résiste. Nous irons sur place. Ce samedi, premier anniversaire du confinement de Wuhan, la mégapole de 11 millions d'habitants coupée du monde pendant 76 jours l'année dernière. Un an après, tout a rouvert et l'heure est à l'enquête sanitaire sur les origines du virus. Enfin, en fin de journal, nous parlerons de la protection des sites religieux dans le monde. Une résolution en ce sens a été adoptée cette semaine par l'ONU, qui entend réunir bientôt chefs religieux et sociétés civiles pour réfléchir à comment mieux protéger les lieux de culte.
Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
Bonjour, viens et vois, communiquer en rencontrant les personnes où et comme elles sont. C'est le thème du message du pape François pour la prochaine journée mondiale des communications sociales. Il a été dévoilé ce midi en la veille de la Saint-François de Sales, saint patron des journalistes. Viens et vois est la façon dont la foi chrétienne s'est communiquée à partir des premières rencontres sur les rives du Jourdain et du lac de Galilée, explique le pape Olivier Bonnel.
Dans ce message, le pape dresse d'abord un constat, celui d'une information souvent préfabriquée, reprise en boucle par de nombreux médias dans des journaux photocopiés, écrit-il. Une information, déplore-t-il, qui réussit toujours moins à interpréter la vérité des choses et la vie concrète des personnes et qui ne sait plus saisir ni les phénomènes sociaux les plus graves, ni les énergies positives qui proviennent de la base de la société. Le pape invite ainsi à user les semelles des chaussures, à s'ouvrir à la rencontre pour être au plus près de la réalité des gens. Ces détails d'actualité se retrouvent dans l'évangile de Jean où Philippe invite Nathanaël à venir et voir. La foi chrétienne commence ainsi, écrit le pape, et elle se communique ainsi comme une connaissance directe née de l'expérience, pas par oui-dire. Dans ce message, François remercie également le courage et l'engagement de nombreux professionnels des médias qui racontent les guerres ou évoquent les minorités persécutées. La pandémie actuelle, poursuit-il, nous interroge sur la façon dont sont rapportées les informations. Qui nous racontera l'attente de guérison dans les villages les plus pauvres de l'Asie, de l'Amérique latine et de l'Afrique, demande-t-il, mettant en garde contre la prétention de voir le monde avec les yeux des pays riches. En somme, une véritable communication, conclut le pape, se fait par le témoignage de vie, comme saint Paul, dont la foi, l'espérance et la charité impressionnèrent ses contemporains. Depuis plus de 2000 ans, c'est un enchaînement de rencontres qui nous communique la fascination de l'aventure chrétienne. Le défi qui nous attend est donc celui de communiquer en rencontrant les personnes où et comme elles sont.
Olivier Bonnel. Et demain, le Saint-Père célébrera une messe pour le second dimanche de la parole de Dieu. Ce sera à 10h en la basilique Saint-Pierre de Rome, en présence d'une centaine de fidèles. François, qui avait institué le dimanche de la parole de Dieu en 2019, afin que les fidèles redécouvrent l'importance de l'écriture sainte. Vous retrouverez le résumé de toutes ces actualités pontificales et vaticanes dans notre newsletter quotidienne, entre autres, pour s'abonner, vaticannews.va. Et les conséquences du coronavirus et de ses variants continuent de perturber la vie des Européens. Les contaminations se poursuivent. La Belgique interdit à ses ressortissants de quitter le Royaume. L'Espagne, elle, souvent citée en exemple, est en pleine troisième vague. L'épidémie a accéléré après le nouvel an avec une hausse de 31% des cas cette semaine. Les autorités résistent pourtant à mettre en place un confinement. Le pays fait désormais presque figure d'exception. Le détail à Barcelone, Louis Marsan.
L'Espagne n'a pas décidé d'appliquer le modèle suédois. Elle ne mise pas sur l'immunité de groupe, mais c'est vrai, c'est l'un des rares pays d'Europe où l'on peut encore déjeuner au restaurant, boire un verre en terrasse, aller au théâtre ou voir un film au cinéma. Depuis 6 mois, ce sont les régions qui ont la main mise sur la gestion de l'épidémie. Il y a donc autant de restrictions que de communautés autonomes. Au Baléares, par exemple, la restauration et les commerces non essentiels sont fermés. Il est interdit de se réunir. À Madrid, en revanche, tout est ouvert ou presque. À Barcelone, les restaurants reçoivent des clients seulement à l'heure du déjeuner. En réalité, Maintenir ouverte la culture ou la restauration est un choix par défaut. Si nous avions les moyens financiers de l'Allemagne ou la France, tout serait fermé, a confirmé le responsable de la santé en Catalogne. Malgré la situation critique dans les hôpitaux, qui est cependant loin d'atteindre le niveau de gravité de la première vague, les autorités veulent maintenir un semblant d'activité économique car elles ne peuvent plus verser d'aide. Malgré tout, les régions aimeraient avancer le couvre-feu à 20h, mais Madrid, qui a le dernier mot sur le sujet, s'y refuse. En attendant, face à ce qu'il qualifie de laxisme de l'État, les médecins et les épidémiologistes demandent aux gens de s'autoconfiner. Barcelone, Luis Marsans pour Radio Vatican.
Et pendant ce temps-là, la vaccination se poursuit sur le vieux continent avec quelques embûches sur le chemin des commandes. Le laboratoire anglo-suédois AstraZeneca annonce en effet que ses chaînes de production ne seront pas en mesure de fournir suffisamment de vaccins pour honorer la commande de Bruxelles. Le délai du retard n'est pas exactement évalué, mais les volumes seraient réduits de plus de la moitié. L'Agence européenne des médicaments prévoit pourtant bien la validation de ce vaccin le 29 janvier. La situation sanitaire en Europe, qui contraste avec celle dans le foyer originel de l'épidémie à Wuhan ce samedi, marque les un an du confinement le plus strict au monde qui a eu lieu dans cette mégapole l'année dernière. Elle avait été la première ville du monde frappée. Aujourd'hui, la ville apparaît épargnée et a retrouvé une vie normale. Retour sur l'anniversaire de ce confinement avec notre correspondant Philippe Dauvin.
Brusquement, dans la nuit, la ville était coupée du monde pour 76 jours, les gares fermées, les aéroports fermés. Des images apocalyptiques à l'époque, les habitants de Wuhan étaient restés cloîtrés chez eux avec interdiction de sortir même sur les balcons, les ascenseurs étaient bloqués. Ces images-là, elles sont un an après complètement oubliées. Wuhan est certainement la ville la plus sûre au monde aujourd'hui. Les habitants ont retrouvé une vie normale, même s'ils portent encore des masques. Ça veut dire pouvoir sortir, faire des fêtes incroyables en boîte de nuit, après avoir été la première ville malade et la première ville guérie, même si dans d'autres villes de la Chine, quelques foyers encore subsistent. Les enquêteurs de l'OMS sont jusqu'à lundi en quarantaine. C'est hors de question pour eux de trouver les coupables, mais c'est trouver les origines. Ils espèrent pouvoir aller sur ce marché où étaient vendus des animaux vivants et où le virus aurait été transmis à l'homme par des chauves-souris ou des pangolins, ou les deux. C'est un travail qui va être très important pour le reste du monde aussi, essayer de comprendre comment ce virus a pu muter d'un animal à l'homme. Hong Kong, Philippe Dova pour Radio Vatican.
L'actualité internationale marquée aujourd'hui aussi par les nombreuses manifestations pro-Navalny dans 65 villes russes. Avant même le rassemblement qui a lieu cet après-midi, la police anti-émeute avait interpellé une vingtaine de personnes déjà. 200 opposants au pouvoir russe ont au total été arrêtés cette semaine. Revoir l'accord américano-taliban signé il y a un an, en février 2020. Telle est la volonté exprimée hier par l'administration Biden. Le motif affiché est celui d'évaluer le respect par les insurgés de leurs engagements. Les autorités afghanes qui attendaient de voir comment Washington se positionnerait sur le dossier ont accueilli cette nouvelle avec soulagement. Washington qui a réduit depuis la mi-janvier à 2500 ses effectifs militaires en Afghanistan, le plus bas niveau depuis 2001. Comment mieux protéger les sites religieux dans le monde? C'est la mission que se donne l'ONU, adoptant cette semaine une résolution sur le sujet. Les chefs religieux, organisations confessionnelles ou d'inspiration religieuse, comme les médias ou la société civile, seront bientôt invités à rejoindre les États membres des Nations Unies pour une conférence mondiale visant à protéger les lieux de culte et promouvoir une culture de paix et tolérance. Explication par Marie Duhamel.
Aucune date n'est arrêtée à ce jour, mais le secrétaire général de l'ONU devra bien convoquer cette conférence mondiale. Réunie en Assemblée générale, les États membres des Nations Unies ont adopté une résolution en ce sens jeudi dernier. L'ambassadeur saoudien qui présentait ce texte a rappelé que les sites religieux sont des enceintes de paix représentant l'histoire, le tissu social des individus. Quelle douleur de voir ces sites religieux menacés ou détruits, ajoutait Abdallah Al-Mualami. Aujourd'hui, 20% des biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO ont un caractère religieux ou spirituel. Et ces sites, de la vie de tous, sont aujourd'hui de plus en plus fréquemment la cible d'attaques conduites par des terroristes, des milices hors la loi, mais aussi par des acteurs étatiques, souligne l'ONU dans un document. Au final, ces lieux sont altérés, complètement détruits ou soumis au vol et au trafic. Le texte demande à la communauté internationale de redoubler d'efforts pour favoriser un dialogue à l'échelle mondiale sur la promotion, à tous les niveaux, d'une culture de la tolérance et de la paix fondée fondée sur le respect des droits humains et de la diversité des religions et des convictions. L'objectif de la future conférence est donc de contribuer à mobiliser un soutien politique en faveur d'actions visant à faire avancer le plan déjà en place des Nations Unies pour la protection de ces sites.
Marie Duhamel. C'est ainsi que se referme cette édition. Grand merci de l'avoir suivi, d'être fidèle à l'information du Saint-Siège sur le pape, l'Église et le monde que vous pouvez retrouver en détail sur notre site Vatican News. À tous, un très beau samedi. Prochain point, 18h heure de Rome.